Ouvrons nos Bibles dans le livre de Lamentation, Lamentation de Jérémie. En fait, nous allons faire un survol de tous les cinq chapitres de Lamentation. Déjà, le fait qu'il y ait un livre qui s'appelle Lamentation de Jérémie, ça devrait nous encourager. Parce que Jérémie est un grand prophète qui aimait Dieu, qui était fidèle, et il se lamente. Il se lamente sur le sort d'Israël et il se lamente sur lui-même. Et donc, de crainte que vous ne vous soyez vous culpabilisez parce que vous vous lamentez parfois, eh bien, sachez que il est possible que l'enfant de Dieu soit dans la souffrance. Donc, Lamentation de Jérémie. Le prophète Jérémie se lamente sur le sort d'Israël, sur le sort de Jérusalem, parce que c'est pendant sa vie que la ville est détruite, le temple est détruit, la majorité des gens sont emportés, il n'y a que les plus pauvres, les plus miséreux qui restent sur place. Et Jérémie comprend que la raison pour laquelle c'est arrivé, c'est parce que les enfants d'Israël ont été infidèles, qu'ils avaient péché, ils avaient maltraité les prophètes, ils avaient souillé le temple de Dieu. Il n'y avait plus l'adoration de Dieu, c'était d'autres divinités et d'autres statues qui étaient dans le temple de Jérusalem. Et Jérémie comprend cela et sait pourquoi c'est arrivé. Mais c'est la première fois que le jugement est si sévère. Et il craint pour le peuple de Dieu. Il craint que ce soit trop. Et il se lamente aussi pour son sort personnel parce que pendant ce temps, eh bien, on l'a mis en prison. Alors, déjà, les gens dans la ville sont comme dans une prison parce qu'ils sont entourés de l'armée des Babyloniens et de Nebuchadnezzar et son armée. Et ils sont déjà, c'est la famine dans la ville. Imaginez ce que c'est que la famine dans la prison. C'est les derniers auxquels on pense, c'est les prisonniers. Et Jérémie est dans la prison. Bien sûr, et il a été fidèle, il était prophète, il est un serviteur fidèle, et voilà, il se trouve en prison, et il se trouve souffrant, et oublié, et il ne sait pas ce qui l'attend, et il se lamente aussi. Mais, nous allons voir au sein de ce livre, c'est que même dans cette souffrance, eh bien, il va trouver de l'espérance. Même dans les situations les plus désespérées, eh bien, on trouve Dieu. Donc, nous sommes dans Lamentation de Jérémie, et donc dans l'Ancien Testament, juste après le livre de Jérémie. Alors, nous allons voir trois choses. D'abord, le jugement de Dieu, le jugement sévère de Dieu. Nous allons voir aussi le sort injuste pour le serviteur fidèle. Et puis, ensuite, l'espérance dans le malheur. Donc d'abord, un jugement sévère pour le peuple de Dieu. Juste un rappel, que si nous avons l'Ancien Testament, ce n'est pas pour nous dire que nous, en tant que chrétiens, ou que l'Église de Jésus-Christ, soit la continuité du peuple d'Israël. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la suite d'Israël. Il y avait Israël, peuple de Dieu, maintenant l'Église, c'est la continuation, c'est la même chose, on continue. C'est pas vrai. C'est deux choses différentes. C'est deux alliances différentes. En fait, Dieu avait plusieurs alliances dans l'Ancien Testament. Il y avait une alliance avec Abraham, Dieu s'est engagé avec Abraham pour certaines choses. Ensuite, vous avez une autre alliance, c'est sur le mont Sinaï, où Dieu aussi, et il y a des commandements qui sont donnés, il y a une nouvelle alliance. Et ensuite, dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ, dans la chambre haute, eh bien, il inaugure une nouvelle alliance encore. Hein? Et donc, nous sommes sous cette dernière alliance. Donc, nous ne sommes pas, l'Église de Jésus-Christ n'est pas l'Israël spirituel, il n'y a aucun rapport. Israël, c'est Israël. Les promesses pour Israël sont pour Israël. Elles ne sont pas pour nous. Nous avons d'autres promesses. Nous avons des promesses qui sont pour l'Église de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Christ. Hein? Donc je dis, mais alors pourquoi l'Ancien Testament si ce n'est pas pour nous? C'est pour nous. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, l'Ancien Testament est là, non pas pour nous parler de ce que Dieu a fait pour Israël, mais pour nous faire connaître Dieu au travers de ce qu'il a fait en Israël. C'est-à-dire, ça nous permet, lorsque nous voyons comment Dieu a agi avec le peuple d'Israël, eh bien, nous pouvons déterminer son caractère, son comportement. Et ce que nous savons, c'est que peut-être les alliances changent, mais Dieu reste le même. Et ce que nous voyons aussi, c'est que quand Dieu entre en alliance avec une génération particulière, eh bien, il est fidèle à son engagement. Comme il a été fidèle à son engagement vis-à-vis de Noé, hein, vous savez que quand Noé est sorti de l'arche, eh bien, il y avait une alliance nouvelle. Et le signe de l'alliance était l'arc-en-ciel. Et il a dit, il n'y aura plus jamais une inondation universelle. Il n'y en a pas eu non plus. Dieu garde. Ensuite, avec Abraham, il y avait une alliance, et le signe de l'alliance était la circoncision. Ensuite, avec Moïse, il y avait une alliance, et l'alliance était le sang d'un animal qui était déjà sur les portes, mais ensuite, même le peuple a été aspergé de ce sang. C'était le signe de l'alliance. Et pour l'Église de Jésus-Christ, aussi, le signe de l'alliance, c'est justement la scène dans la chambre haute. Hein, c'est ce mémorial où nous souvenons de la mort de Christ et de son corps brisé. Donc, chaque alliance a son signe, chaque alliance a sa période, et ils se confondent pas. Mais le Dieu de chaque alliance, c'est le même Dieu, et c'est un Dieu fidèle. Quel que soit le format, nous sommes actuellement sous la grâce, et donc nous n'avons pas 10 commandements, mais nous avons un Dieu plein de grâce qui nous invite à le suivre. Et donc, ce que nous tirons, c'est que Dieu prend au sérieux son engagement vis-à-vis d'un peuple lorsqu'il signe une alliance, et il s'attend à ce que le peuple soit fidèle aussi en retour. Hein, donc c'est une alliance, c'est entre deux personnes. Hein, c'est comme un contrat de loyer. Hein. Il y a le propriétaire, il a son engagement pour certaines choses, et puis après il y a le locataire qui a un engagement aussi. Et lorsque chacun est fidèle à ses engagements, tout se passe bien. Quand il y en a un qui n'est pas fidèle, alors après ça crée des problèmes et on doit faire intervenir un juge. Alors, mais il y a une chose que nous apprenons de Dieu, nous voyons que Dieu a toujours jugé le péché. Ça a toujours été vrai, depuis toujours, ça l'a dérangé. Depuis le jardin d'Éden, hein, là il a jugé le péché. Adam et Ève ont été chassés du jardin. Le monde était devenu tellement rebelle, il ne restait plus que Noé qui était fidèle. Et Dieu a jugé le monde par un déluge. Canaan est devenu infidèle. Dieu a jugé Sodome et Gomorre. Plus tard, les choses étaient devenues tellement mauvaises en Canaan. Hein, ils sont arrivés au comble de l'impureté. Et Dieu s'est servi des enfants d'Israël, dirigé par Josué, pour juger les Cananéens. Et le jugement était sévère et terrible. Dieu va juger les enfants d'Israël, Juda, le royaume de Juda, et avec Nebuchadnezzar, il se servira de Nebuchadnezzar pour juger, ils seront emmenés en exil. Ils reviendront après 70 ans. Et ce que nous trouvons, c'est que pour avoir crucifié le Christ en l'an 70, eh bien, ils ont encore, Jérusalem a été détruite et le peuple d'Israël a été dispersé et est encore dispersé. Et bien sûr, vous lisez l'Apocalypse, nous savons qu'il y a encore un grand jugement qui attend, un grand jugement du monde entier. Ce sera le dernier jugement et Dieu juge le péché. Ça, c'est une chose qui est claire, Dieu juge le péché. Il y a une chose, c'est pas seulement qu'il est allergique, mais il ne supporte pas. Parce que c'est en contradiction avec sa personne. Lui est saint et le péché, eh bien... ne fait pas bon ménage avec lui. Et donc, lorsque nous regardons dans Deutéronome, dans le livre de Deutéronome, donc Deutéronome, le mot veut dire la répétition des commandements. C'est là où Moïse, à la fin des 40 ans dans le désert, rappelle à Israël tout ce qui a été dit. Et donc, dans le livre de Deutéronome, on reprend tout ce qui a été dit jusque-là. Et lorsque vous lisez le chapitre 28 du Deutéronome, vous voyez deux grandes parties. Il y a une partie qui s'appelle les bénédictions et il y a une partie qui s'appelle les malédictions. Dans la partie les bénédictions, il dit au peuple d'Israël, il dit « Si vous êtes fidèles, si vous obéissez, regardez le verset 1, il dit « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Voilà, alors après, vous pourrez éventuellement lire tout le chapitre, le reste du chapitre là. Et lorsque nous arrivons au verset 15, il dit « Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront sur ton partage. » Donc Dieu a averti Israël, il leur a dit, voilà, dans l'année, voilà ce que je ferai. Si vous êtes fidèles, je vous bénirai. Et lorsque nous lisons les récits de la vie à l'époque de Salomon, alors là, c'était, il disait que même l'argent... C'était comme des cailloux dans la rue. Hein. Il n'y avait que l'or qui avait de la valeur. Tellement il y en avait. Mais quelques générations plus loin, le peuple d'Israël se détourne de Dieu. Et Dieu, c'est le jugement, Nebuchadnezzar qui vient, et qui, c'est le massacre, c'est la destruction totale. Et donc Dieu garde. Hein. Dieu avait promis. Dieu ne fait jamais quelque chose sans avertir à l'avance. Et Dieu l'avait promis, et Jérémie le sait. Et ils sont humiliés, ce peuple à l'époque de Jérémie sont humiliés au plus bas point. Eux qui avaient vécu une période de gloire sous David et sous Salomon, et les gens venaient de loin, la reine de Séba était venue depuis ce qu'on appelle aujourd'hui le Yémen, elle était venue de là jusqu'à Jérusalem, rien que pour voir Salomon et voir la gloire. Tout le monde craignait Israël. Mais là, ils sont réduits à rien du tout. Le monde entier se moque d'eux. Et même le temple est détruit. Et vous savez, Dieu dit le lieu, le bâtiment compte pour pas grand-chose si le Dieu du lieu n'est pas adoré. On peut avoir de beaux édifices et qu'on consacre à Dieu, mais si c'est le bâtiment qui est admiré et pas Dieu qui est adoré, il dit, moi, faites ce que vous voulez avec le bâtiment, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire, réduire un exemple qui n'est pas à la hauteur, mais un exemple, c'est avoir une belle maison, mais il n'y a pas une vie de famille. Dis-je, donne-moi la famille, garde la maison. Eh bien, Dieu dit la même chose, il dit, moi je veux être avec mes enfants. Vous pouvez avoir des lieux, des beaux lieux, et puis vous faites des beaux programmes, et vous faites de belles activités, de belles choses. Mais si moi je ne suis pas adoré, eh bien ça ne m'intéresse pas. Et il dit, comme il dit dans Apocalypse 3:20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il s'adresse à l'église. Si quelqu'un, un seul dans l'église entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Et je serai en communion avec lui. Jérémie décrit, et si nous n'allons pas lire tous ce chapitre 1 et 2 de Lamentation, mais si vous lisez là, vous dites, mais c'est terrible. C'est terrible et même Jérémie en est horrifié. C'est comment est-ce que Dieu puisse permettre que son peuple soit diminué jusqu'à ce point-là? Vous savez, la question qu'on se pose, que j'ai déjà entendu, beaucoup se posent et d'autres se la posent sans le dire à haute voix. Mais dit, comment un Dieu de bonté pourrait-il traiter son peuple d'une telle manière, hein? C'est la question. Comment est-ce qu'un Dieu, on parle de Dieu de bonté, un Dieu d'amour, et comment est-ce qu'il peut faire ça? Et on le dit de plusieurs différentes manières. Mais c'est-à-dire, la question c'est que nous, on veut un Dieu de bonté et que de bonté. On voudrait un Dieu qui n'est que bon et rien d'autre. Mais il n'est pas comme ça. Il n'est pas un Dieu que de bonté. Il est un Dieu qui est fidèle à sa parole. Et quand il s'engage, il dit, si vous faites ça, je ferai ça, eh bien, il faut qu'il garde sa parole. Vous savez, j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis d'une autre religion, où Dieu, selon eux, Dieu est au-dessus de sa parole. C'est-à-dire, même s'il a promis quelque chose, parce qu'il est Dieu, il est tellement grand qu'il peut faire autre chose. Il peut promettre et ne pas le faire. Il fait ce qu'il veut. Au jugement dernier, ben, il veut te prendre, il te prend. Il ne veut pas te prendre, il ne te prend pas. Et tu ne peux rien. Vous savez, c'est comme des enfants qui habitent dans une maison où le père, eh bien, en fonction de son humeur, il trouve ça marrant, il trouve ça terrible, le bruit, il dit, ouais, laissez les enfants, c'est les enfants, laissez-les courir. Un autre jour, il y a le moindre bruit, puis il assomme. Et vous savez, des enfants qui grandissent dans ce genre, eh bien, c'est des enfants qui vont avoir des problèmes. De gros problèmes, ils sont perturbés. Mais vous savez, imaginez un peuple qui a un Dieu comme ça, qui est imprévisible. Et puis, en fonction de son humeur, il agit. Mais vous savez, le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu qui agit selon son humeur, mais c'est un Dieu qui agit selon sa parole. Et c'est pour ça que lorsque je suis à Dieu, le Dieu de la Bible, eh bien, je suis en sécurité. Parce que je sais que ce qu'il a promis, il le fera. Et il ne fera pas, il n'y a pas de surprise, ça se passera comme il a dit. Et Dieu est un Dieu qui garde sa parole pour ce qui est du jugement, comme pour ce qui est de sa grâce. Ce qu'il a promis, il le fait. Et vous savez, la question que les hommes devraient se poser plutôt, c'est... comment est-ce qu'un peuple tant béni par Dieu peut-il se détourner de lui et adorer d'autres dieux? C'est là la question qu'on devrait poser. Hein, on dit, oh Dieu, pourquoi? Il dit, tu t'es vu toi, tout ce que j'ai fait pour toi, et regarde comment tu te comportes. Tu as vu comment tu vis? Et maintenant tu viens pleurer. Lui, il a le droit de le dire. Parce que lui a été fidèle, c'est moi qui étais infidèle. Mais prenez votre mixeur et puis essayez de faire du ciment dedans, et ça casse. Vous allez voir, vous allez vous plaindre chez le boulanger et lui dire, mais la machine, elle, bon, j'ai essayé de mélanger, mais ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous avez mis? Ben, j'ai mis du béton. Et vous croyez qu'il va dire, oh, pauvre monsieur, il n'y a aucune sympathie ni rien du tout. C'était pas fait pour ça. Vous n'avez pas respecté la notice. C'est votre problème. Il n'y a aucune sympathie, il dit, sois pauvre de vous, ni rien du tout. Il dit, ben, vous n'avez qu'à acheter une autre alors. C'est tout ce qu'il a à dire. Vraiment, aucune compréhension. Mais vous savez, mais avec Dieu, on vient, on fait du n'importe quoi avec la vie qu'il nous donne, et après quand ça crée des problèmes, on dit, mais Dieu, tu avais promis pourtant. Il dit, oui, mais tu as suivi la notice, tu as suivi la notice que je t'ai donnée. N'oublions pas, nous oublions de comptabiliser combien de fois Dieu a plaidé avec ses enfants. Vous lisez dans l'Ancien Testament combien de fois Dieu a envoyé des prophètes pour dire « Revenez à moi, revenez à moi, détournez-vous de ceci. » Combien de fois ils n'ont pas écouté. Et finalement, bien le jugement est arrivé. Mais, et c'est là où on doit... on ne peut pas accuser Dieu parce que tant de fois il est revenu. Et même il a dit dans 2 Chroniques 7, 14, je vous le lis, il dit « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Vous savez, quand je lis l'Ancien Testament, parfois je suis étonné comment Dieu pardonne facilement. Parfois j'ai envie de dire « il pardonne trop facilement ». Prenez l'exemple de Akab. Akab, qui était terrible tout le long, toute sa vie. À la fin de sa vie, il dit, oh Dieu, j'ai mal agi, j'ai péché, pardonne-moi. Et Dieu dit, ben, je te pardonne. Manassé qui était le pire des rois, bien, à la fin de sa vie, il demande pardon à Dieu et Dieu le pardonne. Mais c'est extraordinaire. Moi, je dis, mais moi, j'aurais jamais pardonné un tel homme. Mais heureusement que ce n'est pas moi Dieu, hein. Heureusement pour nous tous, hein, que Dieu n'est pas comme moi. Mais c'est étonnant. Et nous devons, en fait, au lieu de critiquer Dieu pour sa sévérité, nous devons dire, mais tu es un Dieu de trop de grâce. Finalement, tu es trop bon. C'est pour ça que les gens abusent de toi. Et c'est vrai, hein, j'ai parfois l'impression qu'on abuse de Dieu et de l'amour de Dieu. Mais Dieu garde sa parole. Il est juste. Après, au chapitre 3 de Lamentations, eh bien, vous avez Jérémie qui parle de son état lui-même. Juste pour vous lire quand même un passage, écoutez, lui, il décrit son sort dans la prison. Chapitre 3, verset 1, il dit « Je suis un homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau, il a brisé mes os, il a bâti autour de moi, il m'a environné de poison et de douleur, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas, il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé son chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc. Il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis, pour tout mon peuple, un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux et il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, tu ne connais plus le bonheur, je ne connais plus le bonheur et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Voyez. Alors là, au moins il savait comment expliquer son état. Terrible. Vous pouvez imaginer cela, et c'est pas seulement physique, mais son âme est dans la souffrance. Et il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que je suis là? Et vous savez, il arrive aussi que le peuple de Dieu, hein, les chrétiens, il peut arriver des choses, et on se dit, mais j'essaye de vivre pour le Seigneur, regarde ce qui me tombe dessus. Rien que cette semaine, il y avait une sœur qu'on connaît bien, elle a fait une remarque sur Facebook, comme quoi, elle dit, mais tout s'accumule sur nous ces temps-ci. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout d'un coup, ils sont trois dans la famille qui sont frappés. Et deux qui ont été à l'hôpital. Et il dit, et pourtant, son mari est pasteur, et elle est la femme du pasteur, ils servent le Seigneur du mieux, et tout ça arrive en même temps. Et c'est normal qu'elle dise, mais je ne comprends pas pourquoi tout cela nous arrive. Et puis les réactions des autres, elle dit, mais à vous, ça ne devrait jamais arriver, pas à vous, vous servez le Seigneur, vous êtes des gens très bien. Alors qu'il y a d'autres qui vivent des vies terribles, c'est eux qui devraient avoir ces ennuis. Et vous savez, ces pensées sont là, on est là devant ces choses. Et parfois même, c'est nous-mêmes. Et non seulement est-ce que nous souffrons de l'injustice, nous souffrons de souffrance matérielle, ou la difficulté, l'épreuve. Et parfois, c'est tous les trois en même temps. Et qu'est-ce que je fais? Dieu, pourquoi? Et le pourquoi disparaît dans l'air et personne ne répond. Vous savez, l'apôtre Paul, c'est un homme que nous admirons. On dit, mais moi, je ne suis même pas la cheville de l'apôtre Paul. C'est parmi les hommes, c'est celui qu'on admire. Il a pu dire, imitez-moi comme j'imite Christ. Hein, moi, j'ose pas dire à quelqu'un, imite ma vie. Mais lui, il a pu le dire. Mais lorsque nous lisons le bilan de sa vie, 2 Corinthiens, je vais vous lire un peu un petit bilan de sa vie. 2 Corinthiens, et au chapitre 11. 2 Corinthiens 11. Je vais lire à partir du verset 16. Écoutez, un homme fidèle, un homme qui se sacrifie, qui donne tout pour Dieu. Regardez ce qui lui arrive. 2 Corinthiens 11, verset 16, je lis jusqu'à la fin du chapitre, il dit, « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais par folie. » S'il dit, normalement, je ne devrais pas parler comme ça, je suis en train de parler comme un homme, comme les autres qui m'entourent, voilà ce que je dirais si je parlais comme les autres. Il dit, verset 18, « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un vous s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. » En parlant de ça, j'ai lu cette semaine, il y a un gars qui se prétend pasteur de Dieu, et les fidèles sont allongés par terre et il est en train de sauter sur eux. Et l'idée, c'est que plus le choc est fort, plus le don spirituel pénètre dans la personne. Ça va quand on est celui qui saute, mais quand on est celui en bas. Et il y avait des photos là. Il dit, les gens comme ça, vous les supportez. Et on voyait les personnes qui sont là et puis ils se font sauter dessus. Pour que l'Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement l'imposition des mains, c'est un peu superficiel. Là ça pénètre, tu sens jusqu'à l'intérieur. Non, mais n'importe quoi. Et l'apôtre Paul, ça existait à son époque. Des gens qui faisaient n'importe quoi. Il dit, vous les supportez. Verset 21. J'ai honte de le dire. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle l'insensé. Moi aussi, je l'ose. Sont-ils hébreux ? Moi aussi. Sont-ils israélites ? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham ? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus qu'encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible ? Qui vient à tomber que je ne brûle ? Voilà, il dit, voilà ce que j'ai souffert. En fait, l'apôtre Paul, s'il était resté normalement, s'il était resté pharisien, il aurait eu la vie plus facile. S'il était resté comme il était avant, il aurait eu une meilleure vie. Mais depuis qu'il a décidé de suivre Jésus-Christ, ce n'est que la souffrance. Je me demande à quoi ressemblerait une radio du corps de Paul à la fin de sa vie. Juste s'il fallait le déshabiller et voir l'état de sa peau, tellement il a vécu. Et tout ça, c'est celui que nous admirons, celui qui était proche de Dieu, celui qui était en communion avec Dieu, celui qui était conduit par Dieu, celui qui a pu écrire sous l'inspiration de Dieu. Eh bien, regardez tout ce qu'il a subi. Jérémie a subi, Jérémie était fidèle et il a subi la souffrance. Et même Jésus-Christ, alors Paul par rapport à Jésus-Christ n'est rien du tout. Jésus-Christ a marché sur terre et hier dans ma lecture personnelle j'ai lu ce verset, il me semble que je n'ai jamais remarqué avant, mais ça m'a touché parce que Jésus dit à ses disciples, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Jésus a eu des épreuves. Il a dit, vous êtes restés avec moi dans mes épreuves. Jésus a eu des épreuves. Et c'est dans Luc 22, verset 28, mais lisez la suite, vous verrez, Jésus dans les épreuves, il en a goûté. Et vous savez, de marcher et partout, chaque fois que tu vas à la foule, il y a toujours un pharisien là qui te hait, qui te regarde. Vous savez, c'est gênant éventuellement. Et tout le temps, de savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train d'aller piller pour voir si on ne peut pas trouver une faute, si on ne peut pas le mettre à mort. Mais partout où il passe, Jésus-Christ. Ésaïe dira, homme habitué à la souffrance. Sa souffrance n'a pas commencé sur la croix. Elle a terminé sur la croix. Pourquoi les enfants de Dieu souffrent-ils ? Eh bien, une première raison, c'est parce que la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Le soleil brille sur les bons et les méchants, et la pluie tombe sur les bons et les méchants. Et nous sommes là sur terre. S'il y a un tremblement de terre, ma maison va trembler comme celle du voisin. Matthieu 5, 44 et 45, il dit, il y a une chose, c'est comme ça. Hein? Il y a des choses, c'est parce que c'est des choses qui sont sur la terre et nous sommes là. Il y a aussi parfois Dieu voit que ses enfants se réfugient plus dans le temple que auprès du Dieu du temple. Les enfants d'Israël se croyaient en sécurité. Nous sommes à Jérusalem, il y a le temple de Dieu. Dieu ne va jamais permettre que le temple soit envahi. Dieu, nous on est en sécurité là, bien sûr, des fois ça va être un peu dur, on aura une petite maladie, on aura des choses qui vont arriver, mais jamais. Mais là, à leur surprise, Dieu a permis que ces hommes viennent, prennent la ville, et puis qu'ils rentrent même dans le temple où il était interdit, même aux Juifs, d'entrer dans le lieu saint. Ceux-là sont rentrés, et ils ont enlevé tout l'or des parois, ils ont tout emporté, tout démoli, il ne reste plus rien. Il n'y a même pas une ruine aujourd'hui du temple de Salomon. Et il n'y a même pas une ruine du temple d'Hérode non plus, mais c'est la même raison. Et vous savez, parfois, il y en a qui se disent, mais je suis chrétien, il ne peut rien m'arriver. Un chrétien, non, ça n'arrive jamais à un chrétien. Ne vous rassurez pas. Ma confiance est en Dieu, et non pas le fait que moi je suis chrétien. Ce n'est pas ça qui me rassure, c'est le fait que je sois en Dieu qui me rassure. Et parfois, Dieu a besoin de permettre certaines choses pour qu'on revienne à lui, pour qu'on se souvienne de lui, pour qu'on se tourne vers lui. Malheureusement, l'être humain est tel qu'il pense plus facilement à Dieu quand il va mal que quand il va bien. Tout comme des enfants dans une aire de jeu. Maman est là, mais tant qu'ils ont pas mal, maman, laisse-moi tranquille, je suis grand. Mais la première chose qui sort de sa bouche quand il tombe, maman, il pense à maman quand il a mal. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, on pense à nos mamans. Elle continue à être maman, même quand on ne croit pas avoir besoin d'elle. Elles sont toujours mamans. Et on les trouve toujours prêtes quand on arrive. Et quand on se présente à elles, peu importe dans quel état on est. Même une maman dont le fils a commis un crime terrible, elle ne le renie pas. Et si les mamans sont telles, imaginez, Dieu, il est encore mieux. Hein? Encore de nos jours, parfois on se demande parfois si les mamans sont ce qu'elles étaient avant, hein, lorsque nous entendons certaines choses, mais honorons nos mères. Et en général, les mères doivent attendre que les enfants deviennent parents pour qu'on leur dise merci. Mais c'est comme ça. Comprenons que Dieu, vous savez, il se définit par ses attributs. Les attributs qui sont révélés dans la Bible, c'est comme ça qu'il se définit à nous. Vous savez, chez nous, les hommes, on est habitués, parce que un jour, l'homme est bon, un jour, il est méchant. Un jour, il est calme, un jour, il est énervé. Un jour, il est patient, un jour... il est impatient. Mais vous savez, on ne peut pas prendre ça et l'appliquer sur Dieu. Dieu ne peut pas être un jour bon et un jour sévère. Dieu ne peut pas être un jour saint et un jour tolérant. Dieu est ce qu'il est tout le temps. Et tous les attributs restent vrais tout le temps. Et il peut... Sur la croix, eh bien, l'amour et la justice se sont rencontrés. La croix a donné un message très fort que Dieu aime. Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et en même temps, sur la croix, il a dit « Le péché me dérange à tel point que je suis prêt à tuer mon fils. » deux messages qui pour nous sont contradictoires, mais pour Dieu, les deux peuvent rester vrais. Et donc, ne cherchons pas à demander à Dieu de dire, écoute, moi je préfère te trouver un Dieu bon. Et il y a de ces églises qui parlent tout le temps du Dieu d'amour, du Dieu de grâce, tout ça. Et les gens, ils font n'importe quoi et tout le temps, un Dieu avec un sourire, tu es bien, je t'aime bien, tu es bien, tu es gentil. Écoutez, c'est pas ici, mais je peux vous donner l'adresse, vous allez entendre des choses comme ça. Mais et si ça vous plaît, d'entendre des belles choses qui ne sont pas vraies, bah, c'est comme vous voulez, hein. C'est comme, moi je pourrais payer quelqu'un pour qu'ils me disent toujours que je suis beau et que je suis jeune et que je suis... Mais est-ce que c'est vrai? C'est ça la question. Dites pas le contraire. Hein. Voilà. Mais Dieu est ce qu'il est tout le temps. Et donc, il doit être fidèle. Et Dieu est saint et toujours saint. C'est pour ça que, peu importe à quel moment je vais, je le trouve pareil. Hein, c'est un peu comme, vous savez, la question est soulevée lorsque des professeurs corrigent des épreuves. S'il vient de lire 5-6 copies, des mauvaises copies, et puis après il en trouve une moyennement bonne, il va la trouver très bonne. Et il va mettre une bonne note. Mais si... Il vient de lire des bonnes copies, puis après il y a la mienne qui est moyenne, et puis il va la trouver minable. Alors on dit, mais c'est pas juste, parce qu'il réagit en fonction de ceci. On peut trouver ça injuste, et ça se discute, et peut-être ça se vérifie. Mais Dieu, toujours le même. Peu importe si c'est la 100e copie qu'il corrige, il la corrige parfaitement, juste, avec justice. Il est toujours le même. Il n'est pas affecté par les hommes, par le comportement des autres. Quand je le trouve tel qu'il est toujours. C'est ça qui me rassure. C'est pour ça que je suis attaché au Dieu de la Bible. Les dieux des religions, ça c'est autre chose. Même la religion chrétienne, le christianisme en général, il nous dit n'importe quoi. Il n'y a que la Bible qui nous présente un Dieu qui est toujours le même. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça a toujours été vrai, on a toujours pu le dire. Et lorsque je vais vers lui, je le trouve dans le même état, toujours. Et c'est l'image que Jésus a projetée durant son ministère. Toujours le même comportement, toujours les mêmes choses à dire. Pourquoi est-ce que les enfants de Dieu souffrent? C'est un bon, parce que la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Parce que Dieu veut que notre attention soit sur lui, et parfois il est obligé de permettre certaines choses d'arriver dans notre vie pour qu'on se tourne vers lui. Et puis il y a aussi, parfois on souffre, et bien justement c'est parce que le monde nous traite comme ils aimeraient le traiter. Jean 15, Jésus dit à ses disciples, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et parce que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Et souvenez-vous que la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ils vous feront toutes sortes de choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur ai point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant qu'ils n'ont aucune excuse de leur péché, celui qui me hait est aussi mon Père. Il dit, certains, vous allez être traités, alors certains sont persécutés et certains souffrent, seulement parce qu'ils appartiennent à Christ et parce qu'on rejette Christ et donc on traite ceux qui se réclament de lui, on les traite selon les sentiments du cœur. Et donc il y a une persécution aussi. Et bon, celle qui fait la Bon, c'est pas, elle fait pas mal physiquement, mais elle fait mal autrement. C'est la moquerie ou le rejet ou mis à part, mis à l'écart. C'est une souffrance. Et puis après, il y a le fait que on peut, dans certains pays, alors là, ça devient physique. Et nous devons prier pour ces frères-là aussi, qui sont parfois plus fidèles à Dieu que nous. Parce que la persécution, ça a un effet sur... ça purifie l'Église. Quand il y a la persécution, les gens, il n'y a pas de gens qui sont envie de faire semblant. Hein. Les hypocrites, eux, ils sont vite partis. Parce qu'ils sont pas prêts à souffrir pour le nom de Christ. Mais dans tout cela... Dans le malheur, eh bien, il y a de quoi espérer. Dieu, en jugeant le royaume de Juda, nous avons dit qu'il ne faisait que exécuter ce qu'il avait promis par la bouche de Moïse. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé dans Deutéronome, je vais vous juste faire la remarque et vous pourrez lire après, mais lorsque nous avons lu dans le chapitre 28, nous avons vu la malédiction et la bénédiction, mais lorsque nous lisons le chapitre 30, Dieu dit, et je ne vais pas prendre le temps de le lire là maintenant, mais dans le chapitre 30, il dit, « Mais si vous êtes dispersés, si vous êtes au loin, mais vous vous tournez vers moi, vous revenez à moi, je vous ramènerai. » Donc, tout en parlant de malédiction et de bénédiction, mais il dit, mais si vous êtes désobéissant et que vous êtes sous le jugement, mais que vous vous tournez à moi, que vous venez, je vous pardonnerai. Et donc, ça faisait partie de l'alliance aussi. Et Dieu est toujours le même. Il parle, il dit, je condamne, je juge ce qui n'est pas bon, et je bénis ce qui est fidélité, mais aussi, si jamais tu t'écartes, je pardonne, si tu reviens, je te reçois. Et il pardonne toujours, il est toujours prêt à pardonner. Même Salomon, dans la dédicace du temple qu'il a construit, dans sa prière de dédicace, et dans 1 Roi, chapitre 8, eh bien, il y a un moment où il dit, « Mais si jamais le peuple désobéit et pêche, et que tu le disperses au loin, mais s'il se tourne vers ce lieu, eh bien, tu le ramèneras. » Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, hein, vous avez les Juifs de partout dans le monde, ils ont les yeux tournés vers Jérusalem, en espérant que Dieu va les ramener. Et il y a peut-être, ça a été entamé, mais un jour, ils seront ramenés. Mais c'est toujours basé sur cette alliance, parce qu'ils sont sous l'alliance de Moïse, et donc c'est sous cette alliance-là que Dieu garde. Si... Pour l'instant, on n'a pas trop l'impression. Ils ont envie de revenir à Jérusalem, mais pas trop l'impression de venir, l'envie de revenir à Dieu. Hein? Et c'est ça que Dieu attend. Après, il y a aussi dans ce lamentation, il y a Jérémie qui, non seulement, il parle du peuple, mais il parle de lui-même aussi. Hein, vous l'avez lu, on a lu déjà sa souffrance, mais regardez, je me suis arrêté au verset 18. Regardez à partir du verset 19, Lamentation 3, verset 19, il dit « Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Mais regardez, là il y a une transition qui se fait. Il dit, quand je pense à ma détresse, vous savez, quand j'ai les yeux fixés sur mon malheur, il dit, alors là, la déprime, elle est terrible. Mon âme est abattue autour de moi. Mais verset 21, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre, car l'Éternel ne rejette pas à toujours. Mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Vous voyez, il dit, oui, c'est quand il juge, c'est en pleurant qu'il juge. Je me rappelle quand mon père m'a dit, il m'a dit, tu sais, quand je te donne une raclée, ça me fait plus mal que toi. C'est moi qui encaisse. Mais en devenant père, je me suis rendu compte que ça fait mal de devoir corriger son enfant. Et ça m'a pris quand même 25 ans pour m'en rendre compte. Mais Dieu dit, et lui, il est un père. Il dit, ça me fait mal quand je dois vous reprendre. Et c'est pour ça que je suis tellement soulagé quand vous repentez, vous revenez à moi et que je peux vous pardonner. Oh, ça me fait tel plaisir. Vous savez, il veut nous recevoir. Il veut nous voir revenir à lui. L'apôtre Paul, il avait ce sentiment d'avoir commis le plus horrible des crimes. Il dit, j'ai persécuté l'Église de Jésus-Christ. Il y dit, je suis le plus grand des pécheurs. Mais dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? 1 Timothée 1, verset 12, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Il a dit, Dieu, écoute, à partir du moment où je suis un pécheur, Dieu peut faire des choses pour moi. Et le caractère de Dieu n'a pas changé. C'est pour ça que nous avons lu tout à l'heure, il a invité le peuple à s'humilier, à revenir à lui. Mais parce qu'il voulait vraiment le faire, et d'ici mon peuple, qui est sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de sa mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Ça, Dieu dit, c'est une invitation. Et en plus, il dit, je te promets, je te pardonnerai. Et il pardonne. Et il suffit de lire l'Ancien Testament pour voir tout ce qu'il peut pardonner. Et vous savez, quand Dieu pardonne, il n'évoque plus le péché qui a été pardonné. Chez les hommes, hein, on demande pardon, mais si jamais on le refait ou s'il y a quelque chose, il dit « Oh, tu te souviens que... » Dieu n'évoque plus ce dont il m'a pardonné. Il ne me le rappelle plus. Il ne me le jette plus à la figure. Quand il pardonne, il pardonne. Même chez les hommes, dans la justice des hommes, on ne peut pas être condamné deux fois pour la même chose. Ça, c'est la justice des hommes, et pourtant, elle n'est pas extraordinaire. Hein. Dieu, il dit, quand je te pardonne, le pardon est un jugement. Parce qu'il fallait le confesser, et puis ensuite, ça a été traité, c'est pardonné. Vous savez, nous pouvons espérer en Dieu, quel que soit les raisons de notre souffrance, quelles que soient les raisons. C'est ma faute ou la faute des autres, ou la faute de personne ou la faute de tout le monde, ou c'est ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, peu importe. je peux toujours espérer en Dieu. Il est toujours là. Et n'oublions pas que Jésus pardonne. Jésus qui est Dieu, qui représente Dieu sur la terre. Vous savez à quel moment il a pardonné ? Il a pardonné quand il était encore sur la croix, en pleine souffrance. C'est une chose. Tu as cassé ma voiture. Bon, maintenant elle est réparée et tu me demandes pardon. Bon, elle est réparée. Bon, je peux te pardonner. Ça va, que tout va bien. Hein, ou, mais lui, il était encore dans la souffrance. Demandez à quelqu'un le pardon, vous lui donnez un coup de poing dans le nez, et puis il a le nez qui saigne encore, et vous lui dites pardon. Peut-être après, quand ça cesse de saigner, quand tout est réparé, il peut pardonner. Mais pas pendant qu'il saigne. Jésus était sur la croix et dit, Père, pardonne-leur. C'est pour vous montrer combien il est prêt à pardonner. Même dans l'état, Jésus en tant qu'homme, dans l'état le plus faible, quand on est en pleine souffrance, et dans la douleur et dans l'agonie, il est capable de pardonner. Combien plus maintenant qu'il est assis dans la gloire, peut-il nous pardonner ? Et donc, ne craignons pas le Dieu du jugement, il est là. Mais il suffit de venir à lui, demander pardon pour nos péchés, confesser, abandonner. Et il pardonne, il relève. Et c'est étonnant avec quelle vitesse il nous relève. Quand Jésus a dit pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y avait des soldats au pied de sa croix en train de jeter le sort pour partager ses vêtements. Et il dit Père, pardonne-leur. Il y avait les pharisiens qui se moquaient de lui. Et il a sauvé les autres. Qui se sauve lui-même ? Il a pardonné. Il a pardonné le brigand. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu qui me donne de l'espérance. C'est le Dieu qui, peu importe ce que j'ai dans mon passé, eh bien, je peux venir à lui. Il remet de l'ordre. Dieu est prêt à nous pardonner. Lamentation de Jérémie, oui, c'est lamenté. Mais ensuite, il a dit, je ne suis pas désespéré. Et si vous lisez le cinquième chapitre de la fin de Lamentation, les derniers versets, là, il faudrait que je les lise parce que c'est quand même la fin. Jérémie chapitre 5. Et verset 20, il dit, pourquoi nous oublierais-tu pour toujours ? Nous abandonnerais-tu pour de longues années ? Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Nous aurais-tu entièrement rejeté ? Et t'irriterais-tu contre nous jusqu'à l'excès ? La réponse est non. La réponse sous-entendue, c'est non. Dieu saint, c'est le Dieu de la Bible. C'est le Dieu dans lequel je place ma confiance. Ça, c'est mon Dieu. Un comme ça, je n'ai pas besoin d'autre chose. Et c'est le Dieu qui est pour chacun d'entre nous. Prions. Père Céleste, ce matin, nous avons pu te voir et nous voir. Et alors que ces deux états qui semblerait irréconciliable, eh bien, tu proposes un moyen pour que nous, pécheurs, nous puissions trouver la vie éternelle en toi, en venant à toi, demandant pardon. Et aussi, en tant qu'enfants de Dieu désobéissants, nous pouvons revenir à toi et retrouver la communion. Père, ton message est un message d'espérance. Et nous pouvons compter sur toi. Nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour ce message. Et que nous puissions toujours nous en souvenir et que le malin ne l'écarte point de nos pensées. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Je vous propose un chant. Le 269. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable, je suis sauvé. Nous allons prendre juste la première et la deuxième strophe, hein, première et deuxième strophe seulement. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour maître. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Tu vas briser, puissant vainqueur du mal, la tyrannie, affranchissant mon pauvre cœur et me donnant la vie. Amen. Voilà, vous avez peut-être déjà senti l'absence de Madame Barnes, hein? Ça se sent toujours hein, quand elle n'est pas là. Merci pour ceux qui ont prié pour elle hier avec la réunion de dames à Paris, là, et ça s'est très bien passé.